Emmanuel Macron attendu au tournant. 10 jours après les premiers blocages, les gilets jaunes étaient suspendus à ses lèvres lorsqu'il a pris la parole depuis l'Élysée.
Ils disent que ce sont au fond toujours les mêmes qui font les efforts. Et ils ont raison. Nous devons donc entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il y a aussi une alarme environnementale.
Emmanuel Macron l'a répété à plusieurs reprises. La colère, il l'a entendue. Mais pas question pour lui de changer de cap. Sa feuille de route est la bonne. C'est la méthode qui pêche.
Les réponses que nous apportons sont trop abstraites. Trop loin des gens, trop loin du terrain, trop en quelque sorte uniformes. Les gens disent leur souffrance, on leur répond chèque énergie. Mais chèque énergie, ils ne savent pas ce que c'est. Et la vérité, concrètement, moi non plus.
Pour y voir plus clair et pour convaincre, Emmanuel Macron lance une grande concertation nationale de 3 mois sur la transition écologique. Très peu d'annonces concrètes donc, mais une méthode qui change de fond en comble. Les opposants du président ne sont pas convaincus.
Je suis assez stupéfait. Il n'y a aucune annonce de mesures d'accompagnement, aucune annonce de justice sociale.
C'est invraisemblable de continuer de manière obtuse, braquée sur la ligne qui est la sienne.
Alors, Emmanuel Macron a-t-il raison de maintenir son cap énergétique coûte que coûte? Transition écologique et pouvoir d'achat sont-ils compatibles? L'écologie peut-elle devenir populaire?
Spectateurs, ouais, qui demandent si la France est dans les clous concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, si les engagements de la COP21 ont été tenus. Pascal Canfin, je pense qu'on connaît tous plus ou moins la réponse. Est-ce que la France a été bonne élève et dans quelle proportion, sinon?
Alors, ce qui est important, c'est que la réponse, elle est objective. Hein. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait qui est validé par ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui démontre que depuis qu'on a signé l'accord de Paris, donc en 2015, eh bien, nous ne sommes pas en phase avec les engagements et avec la baisse des émissions de CO2. Au contraire, elles sont reparties à la hausse.
D'accord.
Voilà. Et pas donc, ce qui veut dire que oui, il faut changer, mais il faut changer de manière juste.
Équitable. C'est toute la question. Alors, nous avons un chiffre qui va nous permettre de comprendre le problème.
Exactement.
Les taxes.
6 centimes, voilà, car c'est la taxe sur le diesel devrait bel et bien augmenter de 6 centimes par litre au 1er janvier 2019. Alors, Benjamin Hamard, est-ce qu'on fait peser la charge de la transition écologique sur les Français les moins favorisés via ce genre de taxe?
Mais là aussi, il y a des éléments très factuels. Personne n'a demandé, en tout cas la CGT n'a pas demandé à Emmanuel Macron de changer le cap de la transition écologique. En aucun cas. Emmanuel Macron, il se targue de faire et la transition écologique et l'urgence sociale. C'est à peu près ce qu'il a dit. En réalité, de notre point de vue, c'est ni et ni. Parce que, d'abord, sur les annonces écologiques, excusez-moi, mais aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est, je crois que c'est Audrey Pulvard qui disait que c'était la maîtrise de l'art du vide. Dans ce domaine, aujourd'hui, effectivement, il a son 12e dan, soyons bien clairs. Et ensuite, sur il y a, pour répondre à votre question très concrètement, mais il y a des pistes qui sont du domaine du tabou et du blasphème que le gouvernement ne veut pas effectivement aborder.
Lesquelles?
Est-ce qu'on peut dire, je vais vous en donner quelques-uns. Est-ce qu'on peut évoquer le fait que depuis 1944, on ne taxe pas le kérosène des grandes compagnies aériennes? Est-ce qu'on peut évoquer aussi aux yeux des Français que les grandes compagnies maritimes ne sont pas taxées sur leur fuel, que la taxation des grands groupes routiers privés, elle est que partielle? Est-ce qu'on peut évoquer la question des 9 000 kilomètres de chemin de fer qui ont été supprimés dans la réforme de la SNCF du printemps dernier? Est-ce que l'on peut évoquer la possibilité à la TVA à 5,5?
On reviendra sur l'aménagement du territoire. Ne vous énervez pas.
Oui, je suis très calme.
Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé?
Je suis très calme. Non, vraiment, je suis très calme. Mais vous savez, entre la passion et l'énervement, il y a une petite nuance.
Oui.
Et en l'occurrence, je pense que le climat est très tendu parce qu'il y a des salariés qui en ont assez. Qu'on s'en prenne toujours à eux, qu'on leur demande à eux des contributions, alors que les grands groupes, effectivement, eux, sont laissés tranquilles et qu'on exige si peu.
Non.
Voilà.
Alors, Lornoyla, sur cette question, sur cette nécessité absolue d'équité.
Moi, je suis ravie d'être d'accord avec vous. C'est vrai que le chemin a été long avant qu'enfin on puisse se dire qu'on est d'accord et que... qu'enfin, pardon. Ouais, excusez-moi. Donc, du coup...
Je
m'égare.
Venons au fait.
Les six centimes de carburant, effectivement, il va falloir qu'on se pose la vraie question d'ouvrir à la taxation au kérosène, c'est sûr. Alors, effectivement, on est aussi dans un monde où on croit que le monde est low cost. On nous a habitués depuis après une trentaine, quarantaine d'années à croire que tout était peu cher et que le pouvoir d'achat que vous défendez tant, c'est aussi le pouvoir d'achat d'un monde qui est fini. C'est terminé ce rêve où rien n'est cher. Quand on veut une doudoune qui vient de Chine, elle n'est pas chère, mais cette doudoune est écologiquement absolument pas représentative de ce qu'il faudrait faire. Il y a des milliards d'activités qu'il faudrait supprimer. Si on veut être vraiment dans les clous, quand le président nous dit on va réduire drastiquement les émissions de CO2, oui. Moi j'entends drastiquement, oui. J'entends pas on va réduire à la marge. Oui. Alors si on veut pas les réduire drastiquement, c'est-à-dire en passant par une suppression de certaines activités ultra polluantes, à ce moment-là on taxe. Et si on n'a pas le courage de taxer, que ce soit les transports routiers, le kérosène ou pollueur-payeur, que ce soit évidemment aussi pour les individus et les citoyens, cela dit, rassurez-vous, celui qui a une piscine 3-4-4, deux maisons, etc., il va payer la taxe beaucoup plus cher parce qu'il polluera beaucoup plus cher. Il faudrait qu'on ait des petites cartes de crédit carbone et qu'on aille directement, on est tous co-responsables de cette pollution, de ce rapport à ce monde fini. Et le pas cher, c'est terminé. Et il va peut-être falloir que vous parliez de dictature tout à l'heure. Quand je
parlais, c'est vous qui en parliez, une dictature douce, écologique. Non, voilà, c'est pas moi.
Mais c'est pas ma chère dictature. C'est le rapport à la limite. On ne peut plus vivre dans un monde sans limite. Yes, do it. Let's do it. Yes, we can. Oui. Ça, c'est des injonctions du 20e siècle qui sont plus du tout adaptées. 7 milliards, bientôt 8, bientôt 12 sur une planète aux ressources finies. Et alors, je le redis à chaque fois que je viens là. Oui. C'est terminé, les copains.
Alors,
Pascal Canfin, avant de se préoccuper de la fin du monde, il faut régler les questions de fin de mois ou il faut faire les deux en même temps?
D'abord, je pense que dans les gilets jaunes, il y a une très grande diversité. Oui. Et si on essaye de créer quelques catégories pour y voir clair, je dirais qu'il y a trois éléments. Il y a la critique politique, qu'on voit dans les Macron démission, Macron dégage. Bon, moi, j'ai rien à en dire. C'est un peu le troisième tour de la présidentielle. C'est un autre sujet. Il y a la critique culturelle, qui est de dire, moi, c'est ma bagnole. Et en gros,
et la mobilité, voilà. c'est ma
bagnole. Et quand on voit certains gilets jaunes qui posent à côté de leur 4x4, on leur dit, si vous trouvez que vous trouvez payer trop cher l'essence, à ce moment-là, il faut passer d'un 4x4 à une plus petite voiture. Il y a une critique culturelle. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. L'ère de la bagnole où on est tous tout seul dans une voiture thermique à essence ou diesel, c'est incompatible.
C'est vrai, mais
incompatible avec la lutte contre le dérèglement climatique. Et ensuite, il y a le troisième.
Sens. Parce qu'il y avait aussi le renvoi des gilets jaunes aux gars qui roulent au diesel et qui fument des clopes.
Donc ça, c'est
tout à fait.
Ça, c'est ceux qui veulent. Ça, c'est ceux qui pourraient, mais qui ne veulent pas. Puis, il y a le vrai sujet politique, qui est que ceux qui voudraient, mais qui ne peuvent pas.
Alors, quel accompagnement juste doit être fait ?
Très concrètement, il ne faut pas revenir sur la fiscalité carbone. Par contre, cette fiscalité, elle doit financer ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui.
Ce qui n'est pas le cas.
Ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, elle doit financer l'accompagnement social de la transition. Ça n'est pas fléché.
De quelle manière ? Comment est-ce que cela peut être fait ? Avec quel dispositif rapide et simple ?
Très concrètement, ça peut être développer massivement les solutions de covoiturage gratuites. Les entreprises peuvent le faire de manière optionnelle. On pourrait très bien imaginer que ça devienne obligatoire, mais que ce soit largement financé pour que ça aille très très vite et qu'il n'y ait aucun problème de coût. On pourrait imaginer effectivement que cet argent aille pour développer, vous le rappeliez à l'instant, les petites lignes ferroviaires ou les solutions de transport collectif en milieu périurbain pour ramener tout ça vers les grands axes quand on est autour des grandes métropoles. Et sinon, développer effectivement les transports collectifs à la demande, développer les taxis collectifs. Je vous donne dans la loi mobilité récente, moi ça m'est tombé des mains franchement, le lobby des taxis a réussi à bloquer le fait qu'on allait ouvrir les taxis à la demande en milieu périurbain, qui est évidemment une façon intelligente de partager la mobilité. Mais là, il y a un lobby qui a bloqué. Donc ce n'est pas que le politique, que Emmanuel Macron, c'est une responsabilité.
Une réaction rapide, Benjamin Lamarre, sur ces propositions. Elles sont recevables ?
Ce qui est quand même formidable, c'est quand même de pointer. Moi, à chaque fois que j'étais en face de députés En Marche, vous leur mettez le nez dedans et ils font du déni. C'est qu'effectivement, il y a 25% de la fiscalité verte qui est utilisée à des fins de fiscalité verte. Non, mais c'est un scandale. C'est-à-dire qu'il y a 4 milliards d'augmentation. je suis très calme, vous savez tout à l'heure.
Vous...
D'accord, mais enfin,
vous me faites
peur. Vous parlez, vous êtes d'accord avec moi.
Ok,
d'accord.
Aussi.
Ok, donc vous... bon, allez-y, d'accord. Benjamin, donc j'aimerais terminer tranquillement.
Laissez en aller votre nature.
Il y a, mais non, mais c'est scandaleux parce qu'il y a une colère en France et elle est aussi là-dessus. Moi, ça me choque d'entendre des gens faire du mépris de classe, expliquer aux salariés qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Alors, excusez-moi, moi, j'ai pas fait une carte de syndiqué à la CGT en expliquant aux gens qu'ils étaient des idiots et en étant.
Mais il n'y a pas aussi, il y a pas une forme de déni aussi quand on entend le gilet jaune dire on nous dit la fin du monde, c'est
mais parce que excusez-moi, tout à l'heure on parlait des 4x4, moi j'ai vu effectivement, je connais des gens qui sont partis avec leur gilet jaune, ils ont plutôt des voitures pourries et des fins de mois très difficiles.
Oui.
Donc excusez-moi, on peut pas traiter la question de la fiscalité comme un état dans l'état et percevoir que les Français voient la politique d'Emmanuel Macron comme une politique de classe.
Donc on ne peut pas le mouvement des gilets jaunes comme quelque chose de totalement homogène,
quoi. Mais moi je vous ai j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des revendications des gilets jaunes qui étaient en résonance avec les nôtres. Donc j'ai bien été précis là-dessus. Et donc effectivement, on ne peut pas appréhender les choses à travers uniquement cette question de la culpabilisation. Quand il y a un gilet jaune qui dit tout à l'heure, effectivement, le CICE, on le réaffecte à l'augmentation des salaires, ben je pense que si cette mesure, elle passe, la question de la fiscalité écologique, elle passe beaucoup mieux.
Très bien.
On marche sur nos deux jambes.
Très bien.
Ça fait un peu de bien.
Très bien.
Ben
oui. Moi, amour et paix, Benjamin.
Ce matin, Emmanuel Macron a annoncé une méthode différente. Il parle d'une grande concertation. Est-ce que la méthode de concertation vous paraît être la bonne?
Alors... Il me semble que là, on a loupé. Enfin, on oublie tout le temps les moments historiques où il y a déjà eu de la concertation sur les questions environnementales. On a eu un Grenelle qui était assez intéressant il y a 10 ans, qui a été dit tricoté. Ensuite, 2 lois qui ont été détricotées magistralement par certains lobbies à l'Assemblée nationale.
Là, il parle de quelque chose.
Il y a de la concertation
dans tout le territoire,
dans le débat national. Vous avez des systèmes qui s'appellent les débats nationaux quand vous avez des grandes infrastructures, par exemple sur le PR, etc. Donc, je sais pas. La concertation, c'est qu'en général, on arrive déjà avec la réponse à la question qu'on pose. Non, je trouve qu'il a loupé un truc. Et je trouve que là, vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. On a parlé tous les deux de la taxe sur le kérosène. On est d'accord tous les deux. Il y a un socle commun de choses. Cette taxe, c'est 3 milliards d'euros. On la prend, on la réinvestit à 100% dans la transition écologique. On y est. La taxe sur les transactions financières, je crois que c'est 0,3% de ponction aujourd'hui. Mettons-la à 1%. On va en avoir des milliards pour ensuite... Regardez, deuxième point, on est
d'accord.
Deuxième
point de convergence,
si c'est
formidable.
Ça la concertation, ce serait de nous mettre...
Enfin, et d'accord sens.
Comme plusieurs citoyens.
La taxe sur les transactions financières, je me suis battu pour depuis des années.
C'est ton truc. Il est en train de manquer quelque chose, Emmanuel Macron. C'est qu'effectivement, les citoyens... Moi, je suis désolée, en ce moment, je sens une sorte de synchronicité. Franchement, ça fait 15 ans que je suis sur les questions environnementales. Il y a maintenant des choses qui émergent hors du politique, du grand papa, le grand Manitou qui est là-haut et qui nous dit « Venez, on va discuter. Comité Théodule, au comité sur le climat, des experts, on va décider. »
Comité Théodule,
on va y aller. Non, mais c'est sympa. N'empêche, c'est que vous avez des mouvements, vous avez des citoyens qui s'élèvent, qui commencent à devenir des relais. Nicolas Hulot est un citoyen, au-delà d'être un politique, évidemment, c'est un piètre politique.
Des très initiatives grand individuelles.
Derrière, vous avez du Cyril Dion, vous avez Place Publique avec Raphaël Guzman, vous avez Claire Nouvian dedans, etc. Et vous avez plein de citoyens qui, à un moment donné, sont en train de se mettre ensemble et qui vont peut-être faire remonter, eux, leur désir
faire remonter.
De
changement. Je rebondis là-dessus. Je rebondis, merci. Deux choses. La première, c'est précisément pour capter cette énergie positive dans la société. Nous, au WWF, on a créé une application qui s'appelle WAG, We Act for Good, que vous pouvez télécharger et qui regroupe aujourd'hui déjà plus de 120 000 Français qui, en 15 jours, l'ont téléchargé, agrégés pour faire... Oui, mais attends, en 15 jours, 120 000, c'est déjà pas mal. Ont fait 300, qui se sont engagés à faire concrètement...
Des propositions.
Pas des propositions, des actions.
D'accord.
C'est beaucoup plus fort que les propositions. 350 000 actions au quotidien qui sont déjà agrégées dans cette communauté qui se met en mouvement. Ça, c'est l'énergie positive dont on a besoin. Et ce qu'a raté, je pense, le président de la République aujourd'hui, c'est que les Gilets jaunes avaient ouvert une fenêtre pour transformer profondément justement cette fameuse concertation.
Ouais.
Passer d'un truc très institutionnel qui est resté aujourd'hui à une logique où on prend des Français concrètement dans leurs problèmes quotidiens. On les tire au sort et on dit voilà, on va mettre en face toutes ces institutions, les banques, la Caisse des dépôts, les ministères, les constructeurs automobiles, les régions, les autorités de transport, etc. On va mettre tout ça face aux vrais Français qui ont des problèmes quotidiens et on va dire comment on apporte des solutions.
Ça viendra
peut-être. Ça a été malheureusement raté aujourd'hui.
Ça a été raté aujourd'hui, ça viendra peut-être demain. En attendant, parlons de solutions radicale. Qu'est-ce qui se passe en Espagne?
Oui, avec les vrais Espagnols. C'est un brouillon de loi pour l'instant. Il est quand même très, très ambitieux, ce projet de loi. C'est le gouvernement socialiste espagnol donc, qui veut décarboner au maximum son économie. Ça va passer par plusieurs mesures qui n'ont pas encore été votées, mais c'est en cours avec le mix énergétique.